période de fête est un peu particulière. Et ce qui caractérise, entre autres, cette période de fête, c'est l'abondance des cadeaux. On trouve des cadeaux partout. C'est chouette, bien sûr. Offrir un cadeau, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas un geste anodin, c'est d'ailleurs un des gestes les plus anciens et les plus universels de l'humanité. Dès les temps anciens, dès la préhistoire, les gens ont commencé à s'échanger de simples cadeaux, des colliers confectionnés à partir de coquillages ou bien des dents d'animaux, trophées de chasse, ou encore des morceaux de bois taillés, des pierres sculptées. Les cadeaux symbolisent la gratitude. Ils symbolisent aussi le fait d'être reconnaissant envers quelqu'un. Ils démontrent à l'autre combien on l'apprécie, combien il compte pour nous. Ils démontrent le fait qu'on veut honorer l'autre, qu'on veut lui être reconnaissant. Et les cadeaux aussi, le cadeau en lui-même, symbolise quelque chose qui renforce les liens, qui renforce les relations, qui renforce l'amitié. Tout cela est impliqué dans le geste d'offrir quelque chose. Le cadeau, c'est aussi quelque chose qui réjouit celui qui reçoit, mais celui qui donne aussi. Et c'est assez surprenant, on trouve dans le livre des Actes au chapitre 20, verset 35, ce que Jésus a dit par rapport au fait d'offrir. Il a dit effectivement qu'il y a même plus de joie à offrir qu'à recevoir. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis content de voir la satisfaction, le contentement, la joie de quelqu'un qui reçoit un cadeau que je lui offre. Et ça me fait peut-être plus de joie à moi que lui n'en ressent avec le cadeau qu'il reçoit. Les cadeaux, c'est la période de Noël. À côté des bergers qui sont venus visiter l'enfant Jésus pour lui rendre hommage, pour l'adorer, pour se prosterner devant lui, il y a d'autres protagonistes qui sont apparus, qui sont arrivés de très loin, pour offrir eux aussi des cadeaux à l'enfant Jésus. On pense bien évidemment aux mages. Mais parfois il y a la confusion, j'ouvre ici une petite parenthèse, il y a une confusion en ce sens qu'on pense que la visite des bergers a été simultanée à celle des mages. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Les bergers sont venus la nuit de Noël, tandis que les mages sont venus certainement plusieurs mois après. L'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 12 parle pour les bergers qu'ils rendent visite à un nouveau-né qui est emmailloté et qui est couché dans la crèche. Donc un nouveau-né, un nourrisson. Tandis que Matthieu, au chapitre 2, verset 9, parle non plus d'un nourrisson, d'un nouveau-né, mais d'un petit enfant. Et au verset 11, il nous est dit que les mages rencontrent Jésus non plus dans une étable, mais dans une maison. Donc, on fait parfois cet amalgame, il y a parfois cette confusion qui fait qu'on pense que les bergers et les mages sont venus en même temps voir Jésus. Je ferme la parenthèse. Alors, qui sont ces mages? Ces mages ne sont pas des magiciens qui font des incantations, mais ce sont les magoi perses. Et à leur sujet, l'historien Hérodote dit qu'ils sont semblables, qu'ils ressemblent aux philosophes. Donc l'historien Hérodote dit qu'il les compare à des philosophes grecs. Donc les mages sont en définitive des intellectuels de la Perse ancienne, de l'Orient antique. Peut-être étaient-ce des astronomes, qui scrutait le ciel, qui regardait les étoiles, qui essayait de comprendre. Et certains, dont Augustin et aussi Luther et Calvin, pensent que l'oracle qui a été prononcé par le prophète Balaam, prophète païen Balaam, eh bien, concerne précisément cet événement lié à la visite des mages. Il est question dans ce texte de Nombre 24, verset 17, d'une étoile et d'un sceptre, le sceptre qui symbolise aussi la royauté. Alors la Bible ne mentionne pas leur nom. Ce n'est que bien plus tard, au IXe siècle, qu'un certain ecclésiastique qui s'appelait, c'est un joli prénom, Agnellus de Ravenne en Italie, a donné des noms à ces mages, et comme nous le savons, il y en a un qu'on a nommé Gaspard, Belshazzar et Melchior le troisième. Alors ces mages arrivent à Bethléem par une révélation particulière. Ils adorent l'enfant Jésus et lui offrent des cadeaux d'une grande valeur, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui apparaissent effectivement comme étant des produits de luxe en Apocalypse au chapitre 18. Mais à côté de la préciosité, de la valeur de ces cadeaux, eh bien, c'est surtout leur valeur symbolique qui interpelle. Le symbole que se dégage de ces cadeaux qu'offrent les mages à l'enfant Jésus. L'or, tout d'abord. Bien, l'or, il symbolise d'une part la pureté. On extrait d'un minerai grossier par fusion l'or, qui devient un métal pur, exempt de scorie. Donc ça symbolise la pureté. Et à côté de ça, ça symbolise aussi la royauté. Dans la Bible, l'or est mentionné environ 400 fois. C'est juste pour l'information, 400 fois. L'intérieur et l'extérieur de l'arche de l'Alliance étaient recouverts d'or, ce qui symbolise en quelque sorte la pureté et la perfection de la présence de Dieu. L'or symbolise aussi la royauté. Historiquement, l'or a été associé à la royauté et au pouvoir, à la puissance. Et le bel exemple que l'on peut rappeler, c'est l'exemple de Salomon. Le roi Salomon, eh bien, dès son intronisation, il avait déjà à sa disposition 640 tonnes d'or. On trouve ça dans 1 Chronique au chapitre 29, versets 3 à 8. C'était un roi qui était couvert d'or. Son trône était recouvert d'or. Sa vaisselle était en or pur. Il a fabriqué, je ne sais plus combien, 200 boucliers en or frappé. Un homme couvert d'or, lorsque la reine de Saba est venue lui rendre visite, elle lui a offert 3,5 tonnes d'or. On trouve ça dans... Je ne sais pas si j'ai noté la référence, mais peu importe. Alors en offrant de l'or comme cadeau à Jésus, les mages reconnaissent sa royauté. D'ailleurs, quand ils rentrent à Jérusalem et qu'ils vont s'informer auprès du méchant roi Hérode, il dit, mais où est le... Il lui demande, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Jésus, roi. Les mages le reconnaissent. Marc, au chapitre 15, verset 2, eh bien, Jésus confirme la réponse à la question que Pilate lui pose, « Es-tu le roi des Juifs ?» Puis Jésus lui dit, ben, « Tu le dis. » Et l'Apocalypse donne ce titre de « Roi des rois » à Jésus. Même si on sait que son royaume n'est pas de ce monde, Jésus est roi. Et les mages le savent, les mages l'ont compris. Et les mages offrent un cadeau conséquent que l'on offre au roi. Premier cadeau et sa signification. La deuxième offrande que les mages offrent à l'enfant Jésus, c'est l'encens. L'encens que l'on offre aux divinités en général, l'encens qui brûle dans tous les temples du monde. L'encens pur qui était offert aussi dans le tabernacle et puis dans le temple par les Israélites, par les sacrificateurs sur l'autel des parfums. Et puis il y avait une odeur odoriférante qui remplissait le lieu et qui brûlait en l'honneur de l'Éternel, dans le cadre du culte qui était offert à Dieu. Exode chapitre 30, versets 34 à 38. Et le prophète Malachi, donc en parlant d'un temps futur, déclare, en Malachi chapitre 1, verset 11, « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu, on offrira de l'encens à mon nom et une offrande pure. » L'encens destiné à Dieu. Même si on sait que l'encens symbolise aussi les prières des saints qui montent vers Dieu. On trouve ça notamment dans le psaume de David au chapitre 141, verset 2, et Apocalypse 8, verset 3 et 4. En offrant donc de l'encens à Jésus, les mages reconnaissent sa divinité. Parce que, eh bien, on offre de l'encens qui est offert est une offrande sacrée destinée à Dieu et à Dieu seul. Les mages offrent à Jésus de l'encens parce qu'ils reconnaissent que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et puis, le troisième cadeau des mages, troisième offrande que font les mages à Jésus, c'est la myrrhe. Ça vient d'un petit arbre. Ça sointe sur le tronc d'un petit arbre. Et puis, ça forme des espèces de masses qui peuvent aller jusqu'à 200 grammes. Alors, par raffinement, ben, on peut en faire du liquide. J'en ai ici dans la petite bouteille. Et puis, vous pourrez sentir tout à l'heure. Mais n'en mettez pas encore sur vous, ce n'est pas encore le moment. Vous comprendrez pourquoi après. Mais donc, ils offrent de la myrrhe à Jésus. Alors, la myrrhe, eh bien, elle a de multiples usages. On l'utilise pour parfumer les vêtements. Donc, on trouve cela dans le psaume au chapitre 45, verset 8. On l'utilise aussi comme produit de beauté. On trouve cela dans Esther au chapitre 2, verset 12. Mais aussi, elle est utilisée à des fins médicales. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antiseptique. Et c'est même peut-être aussi un antidouleur. Quand Jésus était sur la croix, eh bien, on lui a proposé de boire un mélange de vin et de myrrhe. Et il a refusé. Mais à côté de tout cela aussi, la myrrhe était utilisée dans le cadre de l'embaumement des défunts, des morts. On mettait sur le corps des morts de la myrrhe pour les embaumer. Et Jean au chapitre 19, n'est-ce pas ? Jean au chapitre 19, verset 39, dit que Nicodème est venu apportant un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 75 livres. Et Joseph d'Arimathée et Nicodème, on voit ça au verset 40, prirent le corps de Jésus et le lièrent dans des linges avec des épices, comme c'est la coutume funéraire des Juifs. La myrrhe sert dans le cadre de l'embaumement d'un mort, d'un défunt. Et donc, à travers ce cadeau que les mages offrent à Jésus, ils perçoivent déjà sa mort expiatoire. Donc, à travers ces trois cadeaux offerts par les mages à Jésus, eh bien, on peut discerner trois facettes de la personne du Christ, de la personne de Jésus. L'or symbolise qu'il est roi, symbolise sa royauté. L'encens symbolise sa divinité. Et la mort, et la myrrhe symbolise sa mort rédemptrice, sa mort expiatoire. Et tout cela, les mages l'avaient compris. Tout cela, les mages l'avaient bien compris. Un mouchoir, s'il vous plaît. Excusez-moi. À côté de toutes ces considérations symboliques liées à ces cadeaux que les mages ont offerts à Jésus, il y a un autre aspect que nous sommes invités à considérer. Si Dieu nous a envoyé Jésus à travers le mystère de l'incarnation, si Jésus est venu jusqu'à nous, s'il a vécu sur cette terre, s'il a souffert, et s'il a donné sa vie en rançon, comme nous l'avons rappelé ce matin, pour chacun d'entre nous, pour payer notre dette, que pouvons-nous lui offrir en retour? Quel cadeau est-ce que nous pouvons lui faire? Qu'ai-je à lui offrir en retour de son amour pour moi? Qu'est-ce que je peux offrir à Jésus? Alors l'Ancien Testament nous montre que l'Israélite pieux, la vie de l'Israélite pieux était étroitement, fortement liée aux offrandes. La dîme de ses revenus, les prémices de sa production, les aumônes pour les pauvres, mais aussi les sacrifices qu'il offrait à Dieu. Et le psaume 116, verset 12, nous dit, et c'est David qui parle, « Mais qu'offrirai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Même déjà le psalmiste se pose la question, « Mais qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur, pour tout ce que tu m'apportes, pour toutes les bénédictions dont je suis le grand bénéficiaire? Que puis-je t'offrir ?» Proverbe 3, verset 9, rapporte ceci, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. » 1 Chronique, verset 16, chapitre 16, verset 29, nous dit « Apportez des offrandes et venez en sa présence. » Donc déjà sous l'Ancienne Alliance, on voit l'importance de l'offrande, l'importance du don fait en l'honneur de Dieu. Et le Nouveau Testament nous invite, lui, à élargir nos offrandes au-delà de l'aspect matériel, sans pour autant le négliger, sans pour autant y renoncer, bien évidemment. Mais le Nouveau Testament va plus loin et il nous invite à aller au-delà, à élargir cette notion de don, cette notion de prémisse, cette notion de dîme. Dieu attend que nous lui offrions nos vies entières, nos cœurs dans leur totalité, nos corps tout entiers. Et ça nous fait penser, bien évidemment, à ce verset bien connu que nous rappelons régulièrement, mais qui est tellement important, de Romains 12, verset 1, où l'apôtre écrivant à l'église de Rome, aux chrétiens de l'église de Rome, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Quoi ? Vos corps. À offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire. Offrir nos corps, nos êtres, dans sa totalité, pour Dieu. Offrir son corps à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable de votre part, dit la fin du verset. Offrir son corps à Dieu signifie renoncer à l'offrir au monde. Renoncer à l'offrir au monde, à ses mensonges, à ses séductions charnelles, à ses séductions malsaines, pour pouvoir, au contraire, l'offrir à Dieu et à Dieu seul. Voilà ce que signifie offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Ça veut dire que Dieu nous appelle à consacrer l'entièreté de nos corps pour son être divin, pour sa personne, pour son œuvre, pour sa gloire. Et le verset 2 qui suit, donc Romains 12, confirme ce que représente notre propre offrande corporelle. C'est, nous dit le verset, ne pas se conformer au monde. Ne pas se conformer au monde. Ce n'est pas donc adhérer par le biais de nos sens, par le biais de notre affection, par le biais de notre corps en général, de nos membres, aux principes immoraux que nous propose le monde. C'est ça, offrir nos corps en sacrifice à Dieu. C'est offrir, c'est consacrer notre cœur à Dieu et à Dieu seul. Alors l'apôtre Paul développe déjà cette idée un petit peu avant, au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, au verset 12 et 13, lorsqu'il écrit ceci. Je ne sais pas si ça va s'afficher à l'arrière, là. Romains 6, versets 12 et 13. Et là, il dit que le péché donc ne règne, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà le cadeau que nous pouvons faire à Dieu. Offrir nos corps, offrir nos membres, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, offrir nos membres comme instrument de justice à Dieu. Alors, est-ce que j'offre à Dieu mon corps en sacrifice ? Est-ce que mon corps, je l'offre à Dieu en sacrifice? Est-ce que mes membres servent comme des instruments de justice pour Dieu? Est-ce que mes membres servent comme instruments de justice pour Dieu? Notre corps, nos membres, nous ne voulons plus qu'ils servent la chair, l'injustice, le péché, mais qu'ils servent la cause de Dieu, sa justice, sa sainteté. Voilà ce que Paul dit en substance finalement. Et voilà le cadeau que Dieu attend de chacun d'entre nous et que nous souhaitons certainement aussi lui offrir. Prenons par exemple, je sais que j'ai déjà partager cette illustration, mais c'est tellement important et interpellant. Prenons par exemple nos bouches, nos langues. Elles font partie de notre corps. Est-ce que ma bouche, est-ce que ma langue reste muette, fermée, lorsque j'ai envie de dire un mensonge? Lorsque j'ai envie de médire au sujet de quelqu'un? Lorsque j'ai envie de proférer, de dire des injures, des grossièretés, est-ce que ma bouche est morte pour tout pour ces genres de choses, pour ces fruits de l'injustice finalement? Et par contre, est-elle ouverte pour quelques bonnes paroles d'édification, d'encouragement, pour la louange, pour l'adoration? Est-ce que ma bouche, est-ce que ma langue est utilisé comme un instrument de justice pour Dieu. Et puis, on peut aussi prendre l'exemple, un autre exemple, celui de nos yeux. Est-ce qu'ils sont aveugles devant la convoitise? Est-ce qu'ils sont morts à la convoitise? Mais par contre, sont-ils perçants pour la méditation de la parole de Dieu? Sont-ils compatissants devant le malheur d'autrui, de quelqu'un qui est dans les difficultés? Est-ce que ce sont des yeux de charité que j'ouvre? Est-ce que mes yeux servent comme instrument d'injustice pour Dieu, malheureusement, ou bien est-ce qu'ils servent comme instrument de justice? Et puis qu'en est-il de quoi? De nos oreilles? Est-ce que j'écoute les ragots? Ou est-ce que je suis attentif et à l'écoute des personnes qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments douloureux, qui passent par des moments de souffrance? Est-ce que mes oreilles sont ouvertes à ce genre de cris de personnes? C'est cela aussi, offrir mes membres comme des instruments, comme étant des instruments de justice pour Dieu. Et puis qu'en est-il de mon cœur? Est-ce que mon cœur est rempli d'amour pour Dieu et pour les autres, est rempli de charité pour Dieu et pour les autres, d'affection pour les autres et pour Dieu? Puis qu'en est-il de mes mains? Est-ce que mes mains servent au service pour Dieu? Ou à des choses qui caractérisent toutes sortes d'injustices? Est-ce que je mets au service de Dieu et de son Église mes dons et mes talents? C'est cela, offrir mon corps en sacrifice à Dieu. C'est cela, offrir mes membres comme instrument de justice pour la gloire de Dieu. Et vous connaissez peut-être cette petite histoire que j'ai déjà racontée, mais peut-être que certains ne l'ont pas encore entendue, donc je me permets encore de la raconter. Ça se passe dans une église en Afrique. Et le missionnaire, dans un village africain, prêchait sur l'importance de donner à Dieu non seulement des biens, mais aussi et surtout son cœur. Alors à la fin du message, comme c'est de coutume dans certaines églises africaines, il y avait une grande calebasse qui était là au milieu de l'église. Et il y avait des gens qui déposaient une petite pièce, un petit billet, un sac de farine, quelques fruits. Et il y avait un petit garçon à pieds nus qui était là et qui regardait de loin. Et puis ce petit garçon s'est approché et le missionnaire lui a demandé « Mais toi aussi, tu as quelque chose à mettre, à offrir au Seigneur ?» Et puis le petit garçon a hoché de la tête, il dit « Non. » Il n'a pas dit non, il n'a rien dit, il est resté muet, mais il a fait non avec sa tête. Et puis à la stupeur générale, il est monté sur la table et il s'est assis dans la calebasse. Et le missionnaire lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'assieds dans la calebasse ?» Et le petit garçon de répondre « Je n'ai rien à offrir à Jésus, alors je me donne moi-même à Dieu. Offrez vos corps en sacrifice vivant à Dieu. Offrez vos membres comme instrument de justice pour Dieu. » Voilà le cadeau que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors pour conclure, eh bien, les mages ont honoré Jésus par des cadeaux de grande valeur, de la myrrhe, plutôt de l'or, reconnaissant par là sa royauté, de l'encens, reconnaissant par là sa divinité, et puis de la myrrhe, reconnaissant le don de sa vie qu'il allait offrir à la croix en sacrifice expiatoire pour notre rédemption, pour notre salut inespéré. Alors, Jésus s'est donné entièrement pour chacun d'entre nous. Et il attend aussi que nous nous donnions entièrement à lui, que nous lui offrions entièrement nos corps en sacrifice vivant pour sa gloire.